Je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Si jamais il y a un but que je poursuis, c'est la singularité.
Essayez toujours de se cultiver, de se frotter au savoir des autres.
Beaucoup travailler.
Le musée SACEM présente Dans la peau d'un auteur, un podcast écrit, réalisé et présenté par Sandra Bechtel.
Qu'il soit compositeur ou parolier, émergent ou confirmé, dans l'ombre ou la lumière, chaque auteur porte en lui une musique singulière, au rythme unique qui résonne. Comment déchiffrer un auteur ? Peut-être comme une partition, avec méthode, patience, désir et précaution. C'est ainsi que nous allons nous glisser, aujourd'hui mercredi 4 avril 2018 à Neuilly, dans la peau d'Arlette Tabar, une figure emblématique qui se définit comme une touche-à-tout artistique, tantôt faiseuse, tantôt écouteuse, souvent fougueuse et toujours curieuse. Bienvenue dans son kaléidoscope haut en couleur.
Bonjour, cher invité du jour. La première question très simple, ton nom, s'il te plaît.
Arlette Tabar, dite Babar.
Donc c'est ton pseudo.
C'est dite. Pas mon pseudo, c'est mon surnom. Mon pseudo d'écriture, c'est Claude Carmonne.
Surnom et pseudo, nous avons les deux. Oh là là, ça commence bien. Peux-tu me dire l'intitulé exact de ce que tu considères être ton métier ?
Touche à tout artistique. Je suis un auteur. Alors, un auteur, je dirais que je suis arrivé à l'écriture au travers de, finalement, cette longue écoute. En me disant un jour, après tout, c'est bien gentil de porter un jugement positif ou négatif sur ce que font les petits camarades, mais et si tu t'y collais pour savoir ce que ça fait ? Une autre forme d'écoute, une autre forme de curiosité. Donc c'est venu comme ça. Et puis, à la limite, les premières chansons, elles ont été faites parce que personne ne voulait écrire pour de jeunes poulains que j'avais dénichés dans des auditions et qui manquaient de matériel. Donc il n'y avait personne, je m'y suis collé, c'était tout bête.
D'accord, donc ça s'est fait de manière assez naturelle, un peu par la force des choses.
Oui, par curiosité, par la force des choses, et puis par également une forme peut-être d'honnêteté intellectuelle de dire c'est bien gentil de juger les autres, ou de juger, c'est un grand mot, hein. Mais disons de décider de diffuser les autres ou de ne pas les diffuser sans savoir exactement, comme aurait dit Michel Chevalet, comment ça marche. Je pense que ce sont essentiellement nos professions ou nos vocations, dans certains cas, sont basées sur... je crois qu'elles devraient continuer à être basées sur vraiment la curiosité, vraiment les sens en éveil. Il y a un mot anglais, bon, j'aime pas beaucoup les anglicismes, mais on parle de talent scout, c'est-à-dire le dénicheur de talent. Et en fait, ma vocation, c'est ça.
D'accord.
D'où que ça vienne. Donc, ça a été la chanson, ça a été la musique, le jazz, le machin, etc. Ça a été les humoristes, j'ai beaucoup donné dans ce domaine. Être là en se disant, si... Parce qu'il est bon de préciser que le début de ma carrière s'est fait dans le milieu médiatique. Donc nous avons un outil. Essayons de le mettre au service de ce qui arrive, de ce qui sera demain, et pas forcément uniquement de ce qui est acquis et ce qui était hier. Donc c'est un harmonieux mélange.
D'accord. Très bien. C'est intéressant de venir à l'action par la consommation, finalement. Enfin, consommation, c'est un terme un peu vulgaire, mais l'écoute, c'est une forme de consommation aussi. C'est-à-dire, on reçoit les choses, et puis après,
oui.
C'est une démarche intéressante.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense qu'il faut essayer d'apporter, où que l'on soit, une réponse à des envies pas forcément exprimées. Donc, nous sommes des catalyseurs plutôt que des juges. Et de se dire, tiens, telle chose, telle œuvre, telle nouvelle voix m'interpelle, me rebute, voire me rebute, ou m'intéresse, si ça n'est pas un robinet d'eau tiède, ça vaut la peine de l'exposer. C'est un petit peu ça. C'est quoi ? Bon, en peinture, c'était les galliéristes. Nous sommes, et je reste profondément, un programmateur.
D'accord. Tu es membre de la SACEM depuis quand? Tu sais ta date d'entrée? Je peux la trouver. Hein.
Oui, okay. Tu la trouveras.
Bon, ben, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais pendant... C'est curieux parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire des chansons de façon tout à fait anecdotique. Et on m'a dit que j'avais une approche du droit d'auteur en remplissant des feuilles de droit d'auteur pour déclarer les œuvres des autres, de ceux qui passaient. Mais je n'avais pas imaginé une seule seconde que je puisse être assimilé à ces créateurs. Donc il a fallu que quelqu'un me dise, bah, il faut tout de même t'inscrire à la SACEM. Donc l'année précise, je m'en souviens pas.
Je la trouverai, c'est pas grave.
Cela étant, nous avions droit à l'époque à un examen de passage que j'ai...
C'est vrai?
Ben oui, j'ai passé un examen de texte. Et alors surtout quand nous étions dans le civil, si je puis dire, dans l'univers médiatique, nous étions particulièrement contrôlés. Donc, j'ai passé un examen de passage, on doit retrouver les textes qui... Nous avions des thèmes imposés qui n'étaient pas forcément grisants. Et j'ai été reçu, et à la lueur de ça, je suis rentré à la SACEM, alors te dire en quelle année, je ne me souviens pas.
C'est pas grave. Tu habites où? Tu n'es pas obligé de me
Paris.
Dire la rue, hein.
Paris. Non, Paris.
Ok. Qu'est-ce que tu t'attribuerais comme signe particulier?
Vraiment la curiosité, le sens du dialogue. Une certaine véhémence dans la défense de dossiers que j'estime essentiels.
Ok.
Un certain courage de mes opinions. Dans le négatif, eh ben, il y a le côté de temps en temps de...
T'es pas obligé de le dire.
Hein. Non, mais si, d'être un peu excessive ou de rarement résister à l'envie de faire un bon mot. Il paraît que c'est très français, mais ça peut être blessant et ça, je le regrette toujours beaucoup. Mais je pense surtout c'est un sens qui m'est venu très rapidement du respect du collectif.
D'accord.
On n'est pas grand-chose tout seul. Ou alors il faut avoir un ego surdimensionné, ou peut-être être un génie, ce que je ne suis pas, mais je pense que le collectif est important, et surtout dans les instances type notre société d'auteurs. Mais de toutes les façons, quel que soit notre parcours, le collectif est important.
Ok. Peux-tu me dire une chose, j'entends par chose, un lieu, un endroit, quelqu'un, un état, un moment, une couleur, ce que tu veux, que tu aimes?
Ce qui m'intéresse, c'est demain.
Et alors, quelque chose que tu adores?
Tout ce qui tient en éveil, tout ce qui fait que on est quelque part à l'abri d'une intelligence artificielle, parce que à la réflexion s'ajoutent les sensations et les sentiments. C'est important.
Ok. Du coup, quelque chose que tu n'aimes pas?
La couardise.
La couardise, tiens, donc ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. D'accord. Quelque chose que tu détestes?
On n'a pas assez de temps pour s'occuper de tout ce que l'on aime. Je ne m'accorde pas le luxe de détester.
Très bien. Et pour cette petite intro, peux-tu te définir en trois mots?
Engagée, curieuse et assez souvent insolente.
Par rapport au métier, au statut d'auteur, à proprement parler, c'est-à-dire d'écriture, comment tu te sens dans ce statut? C'est quoi ta vision de ta place?
On sait pas trop pourquoi, tout à coup, on a une idée. Alors, il y a les Stakhanovits de l'écriture qui savent faire ça, des vrais professionnels. Moi, je dirais que je suis plutôt quelqu'un d'espèce d'amateur éclairé. Il faut qu'il y ait l'envie, la rencontre, là encore, le dialogue. J'ai beaucoup coécrit, pas tant par manque d'inspiration, mais parce que c'était plus sympathique d'écrire à deux. Mon Dieu, que de redites. Là encore, il y a des échanges. Qu'est-ce que c'est être un auteur? Il faudrait demander à des gens comme Claude Lemel ou tout ça.
Je lui ai demandé.
Voilà. Être un auteur. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu un petit peu le fessier entre deux sofas parce que j'ai tellement écouté la production des autres qu'il m'arrivait même parfois d'écouter la mienne dans les mêmes conditions d'esprit, tu vois, dans les mêmes dispositions d'esprit, pardon.
Mais est-ce que tu as des besoins précis ou techniques pour te mettre en condition d'écriture?
Souvent, ce sont les délais.
Donc, un peu dans l'urgence, peut-être?
Mais oui, parce que comme je suis un petit peu comme les sucres lents. Hein. Ça mûrit, puis je laisse passer du temps, puis tout à coup, il y a le deadline, parce que quand il s'agit de chansons, c'est tout, ou une séance, ou quelque chose comme ça. Quand il s'agit de papier à rendre, j'en ai beaucoup écrit. Bah, là aussi, il y a ça, j'ai écrit beaucoup de préfaces. Il y a un peu l'urgence dans, je dirais, dans la flânerie.
Est-ce que dans ta carrière, il y a eu des choses, des obstacles de l'ordre de la galère, des périodes ou des moments vraiment de galère où ça marchait pas comme tu voulais, où tu as dû peut-être te remettre en question, revoir ta manière de faire?
Je dois dire que je n'ai pas le souvenir de galères, en tout cas matérielles. Bon, il y avait des galères comme tout le monde. Statut d'étudiant, tu passais à assistant grouillot au porte-café dans les médias. Bon, c'est un peu instable, mais assez vite, j'ai trouvé ma famille et des gens à l'écouter. Ça a été très important. Et en tout cas, pas lié à mon état de femme. J'ai eu des patrons au masculin. C'est vrai qu'il y avait davantage de patrons masculins, mais ils ont été de formidables mentors. Ils se sont pas préoccupés de savoir, de connaître notre, enfin, de constater notre sexe, nos religions, nos couleurs de peau. C'est un privilège.
Mais ça m'intéresse justement.
C'est un privilège.
Cette histoire de conditions de femme, notamment par rapport au pouvoir, parce que en fait, tu étais quand même en pouvoir de pas mal de choses en tant que,
oui,
que productrice, que voilà.
Oui.
Et est-ce que ça a été le fait d'être une femme pour toi, ça? Ça a conditionné certains choix, ou surtout à une époque où c'était quand même encore moins simple que maintenant, j'imagine. Tu ne l'as pas spécialement ressenti?
Au tout départ de ma carrière médiatique, j'ai rencontré des... Bon, c'était forcément des hommes. Hein. Je dis forcément parce que c'était...
Bah oui.
Voilà, des hommes qui étaient décisionnaires. Et ils ont été, à mon égard, des gens de... d'écoute, de soutien, de pari. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais il y avait du pari dans l'air. Et en fait, la notion de... J'ai commencé à Europe numéro 1, et c'était un peu le Far West. Hein. Donc, bon, après tout, il y avait les Dalton, mais il y avait Calamity Jane. Ça ne se posait pas. Ça ne se posait pas. Alors après, un petit peu, il y a eu de temps en temps des problèmes. Est-ce qu'il faut... est-ce qu'on peut nommer une femme là? Et mon patron, qui s'appelait Lucien Maurice... d'ailleurs qui faisait tandem avec Pierre Delanoë, quelqu'un qu'on a bien connu à la SACEM, se sont pas posé la question pendant très longtemps. Hein. Ça a été, on prend ceux qui nous semblent bons, et voilà. Donc, ça, c'est un privilège formidable. À une époque où, tout de même, les choses n'étaient pas aussi simples que cela.
Non, et elles le sont toujours, franchement, pas totalement.
Elles le sont pas totalement. Je ne sais pas, ça doit être des bonnes fées, hein, quelque part, qui se sont penchées sur la tête. Et puis peut-être aussi parce que la grande chance, c'est de rencontrer des gens intelligents, de rencontrer des passionnés et qui ont perçu que nous avions des passions communes. Donc la passion passait au-dessus des normes.
Oui, et des gens.
Alors cela étant, en plus, il faut dire aussi, je ne leur posais pas trop de problèmes, je n'avais pas de plan de carrière. C'est tellement formidable ça. Ça les gênait pas beaucoup. Mais il faudrait pas que ce soit pris pour quelque chose de restrictif. C'était des gens intelligents.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué à un moment?
Étant issu d'un milieu modeste, il me manquait de temps en temps... Alors, le relationnel, il était zéro. Le relationnel...
Le réseau, tu veux dire?
Le réseau, ouais. Il n'y avait pas de réseau du tout. Donc, il me manquait certaines clés. Mais là encore, si tu es curieux et si tu dialogues, tu les apprends et puis tu... Et en fait, se trouver des mentors, c'est assez simple. C'est assez simple.
Comment ça se passe? Ça m'intéresse.
Non, là encore, par curiosité.
Oui, mais quand tu dis se trouver des mentors, tu parles de quelque chose d'actif, pas des gens qui t'inspirent ou qui sont des influences.
Ah bah, ça
tu parles vraiment de mentors.
Ça pouvait être les deux. Ça pouvait être des formateurs d'une certaine façon, mais surtout... des gens avec qui il y a une certaine vision et qui te font briller les yeux et dont tu puisses te dire, voilà, pour tel aspect, j'aimerais bien être comme ça. j'aimerais bien leur ressembler, ou j'aimerais bien, où tu tires les fruits de ouais. quelque chose. Alors, au fond, c'est ton éducation. Il me manquait certaines clés, il en manque toujours, si on veut être honnête. Et il y a eu, je pense, les facteurs chance, des rencontres qui ont été déterminantes, même sans que ce soit sur l'instant très, je dirais, très palpable. Mais tu tires autant d'enseignements en fréquentant ce qui était mon cas, puisque j'étais dans une station de radio, ce qui permettait d'aborder à peu près toutes les disciplines. Donc il y avait bien sûr l'artistique, c'était un petit peu le précaré, mais j'étais très très souvent au sein de la rédaction, donc avec le monde politique. Le monde politique, le monde sportif, le monde littéraire, les peintres, les couturiers. Et en plus, à une époque où c'était très très émouvant, je veux dire, tu passais... Tes interlocuteurs pouvaient être Françoise Hardy ou Brel et Brassens, qui étaient vraiment des gens que j'admirais beaucoup. Mais ton voisin immédiat dans la rue, c'était Courrèges. Et puis, il y avait un de mes très bons amis qui s'appelait Bernard Buffet. Mais on est devenus amis parce qu'on avait la même curiosité insatiable. Et nous étions deux grands lecteurs d'historiens. Donc, on passait du temps de façon formidable à s'expliquer ou à disséquer la commune, par exemple. Bon. Donc, tu as des interlocuteurs qui arrivent de tous les côtés. Il y a les mondains, c'est important. Et puis, il y a la vie de la nuit. Et elle est très importante, la vie de la nuit. Parce que les gens, la nuit, n'ont pas exactement le même comportement.
Non, c'est pas la même énergie.
La même énergie, pas le même comportement. Ils sont plus vulnérables, plus propices à la confidence. Et là, bon, ben, y avait le monde de la danse, des boîtes, parfois des bas-fonds. Et tout ça te crée une espèce de culture. C'est inconscient, mais tout ça fait une forme d'amalgame où tu te dis la surprise, la découverte, ce qui va te faire briller les yeux, ça peut arriver de là. De là, d'ailleurs.
Ouais. Il faut rester alerte, quoi.
Mais il faut rester alerte.
Du coup, cette manière de voir, d'envisager cette ouverture comme ça, multi-réseau, tu parles du monde de la nuit, du monde de la radio, enfin, du coup, de tous les mondes, finalement. Est-ce que c'est de là que vient ton inspiration ?
Le fait d'écrire, c'est vrai, est nourri par toutes ces expériences. Par toutes ces interrogations, par toutes ces réponses, par toutes ces non-réponses.
Ok, est-ce que tu as un ou plusieurs regrets ?
Pas le temps.
Ta journée type ? Et ne me dis pas que tu n'en as pas.
Alors,
si tu as le droit.
Je te bouscule, mon fils. Bêtement, ma journée type, ouvrir les yeux et allumer la radio.
Direct ?
Ah oui.
Et le reste du temps ?
Alors, le reste du temps, bon, bah, écoute, c'est bosser en fonction des... C'est travailler beaucoup en fonction de ce qui se présente. En fonction des dossiers, en fonction de recherches personnelles, enfin bon. Et puis, toujours, les relais de l'information, de ce qui se passe dans le monde, en essayant aussi de savoir ce qui se passe extramuros, parce que c'est important, comme je vais assez pendant quelques semaines... chaque année aux États-Unis, donc je reste en relation avec des copains qui, eux, sont très itinérants, donc on se donne des nouvelles du monde, c'est important. Et puis, en dehors de la création, j'ai un péché mignon, c'est la politique.
Ah !
Ouais, bah, j'aime bien. Bah, parce que j'ai été, je te le disais tout à l'heure, nourri entre l'artistique et le journalisme.
Ouais.
Donc, à un moment, je voyais... à peu près aussi fréquemment Johnny Hallyday que Gaston Defer ou Debré, enfin bon.
Est-ce que tu as une ou plusieurs obsessions ?
Une peur, prendre l'avion, je le prends, mais bon.
Moi, tu vois, je le prends pas.
Prends quand même parce que pour aller voir mes oiseaux dans ma réserve floridienne, il faut bien que je prenne l'avion.
Ah bah non,
mais j'aime pas.
D'accord.
Ça a longtemps été un plaisir. J'essayais même de découvrir les nouveaux modèles d'avions. Puis un jour, pouf, pouf, d'un seul coup, pif, pouf. Bon, je me suis dit, mais est-ce que c'est bien naturel de faire ça? Et à partir du moment où j'ai réfléchi, j'ai eu la pétoche. Comme quoi, il faut rester un tout petit peu léger dans sa tête.
D'accord.
Tu sais, si tous les matins, tu te dis que parmi les bienfaiteurs de l'humanité, il y a eu des gens qui prenaient la vie avec un angle de dérision. Je pense à des Guitry, à des Benchley, à des gens comme ça. Déjà, ça te requinque.
T'as pas d'obsession, je dirais même pas forcément concrète, mais ça peut être même des sujets, comme t'es quelqu'un aussi avec des convictions très fortes, il y a peut-être des sujets qui t'ont toujours animé et que pour lesquels tu vas toujours te...
Non, si tu veux, là...
Ok, non, alors.
Non, en revanche, je suis très, très, très soucieuse de la pérennité du droit d'auteur. Mais c'est pas obsessionnel.
C'est pas
obsessionnel. Non, c'est une question là encore d'honnêteté, de dire on m'a fait confiance, on m'a mis dans certains postes, dans une certaine position. En plus, le secrétariat général de la SACEM.
Bah d'ailleurs, oui, parle-moi de ça.
C'est pas facile tous les jours, mais il faut essayer d'être à la hauteur. Mais c'est pas obsessionnel. Si c'était obsessionnel, alors en plus, c'est le meilleur moyen de faire des conneries.
Oui, c'est sûr. Ok. Bah, tu peux me parler de ça, de la SACEM, de ton engagement, ton rapport, des bénéfices et des limites?
Il y a eu quand même des limites à un moment, parce que la première fois que je suis rentré au Conseil, ça devait être en 98, je crois. J'ai commencé à faire un premier mandat, et à l'époque, j'exerçais encore des activités et d'auteur et médiatique, je travaillais beaucoup en télévision, et puis un jour je me suis dit que tout ça était compliqué, donc j'ai mis une croix sur l'univers de la télévision, qui était un sacrifice économique
même affectif peut-être, parce que c'était, non, c'est fou d'avoir fait ça comme
oui
ça.
Mais ça a toujours été la création et les créateurs qui m'intéressaient davantage. Okay. Alors je les retrouvais. Bon, bien sûr, de temps en temps, tu es un petit peu titillé de ne pas pouvoir, dans l'instant, partager tes convictions ou tes intuitions. Mais, bon, je n'étais pas en milieu étranger. Hein. Ça faisait quand même un paquet d'années qu'on se fréquentait les uns les autres. Et puis, j'avais beaucoup d'amis. Mmh. Il y avait un conseil qui était composé de gens comme... Pierre Delanoë, Gérard Davoust, Eddy Marnay, Jacques de Marny, Maxon Fuchs, René Boyer, etc. Enfin, et plein d'autres. On se connaissait. On se connaissait bien. Ça faisait longtemps qu'on avait passé nos excès. Ça devenait plutôt des gimmicks qu'un mauvais ressenti. Donc, il y avait ça, et puis il y avait cet intérêt pour ce qu'est le droit d'auteur, ce qu'est la protection des créateurs, ce qui est les mécanismes éditoriaux, etc. Donc c'était un nouveau challenge, puis c'est intéressant.
Et donc depuis, tu es complètement engagé, il n'y a pas eu de rupture à ce niveau-là pour toi et...
Non, j'ai fait mes mandats de 3 ans, mon année de sommeil, je me représentais, j'étais en général élu. Ben oui, j'étais élu. Parallèlement à ça, il y avait de plus en plus quand même un intérêt pour tout ce qui est le social dans cette maison.
Ouais.
Donc, au travers de la mutuelle et surtout du comité du cœur. Bon, et des cérémonies que j'appréciais, tout particulièrement, qui sont les promotions des nouveaux auteurs définitifs et professionnels.
Ouais.
Parce que là, tu vois les forces montantes, et tu vois aussi la répartition et comment qui devient majoritaire, qui devient minoritaire, etc. Ça nourrit ta réflexion aussi. Et puis, c'est les grandes décisions stratégiques que tu es amené à accompagner dans parfois ce que ça a de plus rébarbatif. Je pense en particulier aux grandes réformes statutaires qui ont eu lieu, où en n'étant pas juriste, ça me semblait une autre planète. Et puis finalement, à la demande du directeur juridique, j'ai rejoint le groupe et ça m'a passionné. Encore, c'était nouveau, c'était de l'inconnu. Et puis surtout, ça fait partie des clés. Ça fait partie de demain.
Tout à fait.
Mais c'est un parcours essentiellement d'engagement, d'échange aussi. Et puis il faut bien dire quand même, attends, pas monacal, hein, nous avons aussi des moments d'intense rigolade.
Non.
Mais si, je passe certaines soirées très animées. Et très animées, je veux dire, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir un courant spiritueux. Mais je veux dire, où tout à coup, tout le monde reprend ses marques. Les créateurs créent, et voilà. Il y a eu des soirées où chacun sortait la guitare, se mettait au piano.
C'est bien ça, quand c'est...
C'est la récré.
C'est la base, quand même. C'est la base de ce qui rassemble aussi cette espèce de communauté. C'est quand même l'essence de tout ça.
Un jour, je dis à Chamfort, et le piano, je dis, plus ou moins trace de toi, j'adore cette chanson. Oui, c'est mis là. Gobert, qui est un pianiste d'exception, est arrivé, tac, tac, tac. Ça fait du quatre mains. Un autre a sorti. Et tout à coup, il n'y avait plus d'arrière-pensée des uns et des autres. On avait rejoint l'essentiel.
Absolument. Est-ce que tu te sens heureuse?
Ça dépend des jours.
Tu parlais de ton engagement pour le droit d'auteur et tout ça. Est-ce qu'à l'intérieur de ça, il y a une place pour toi, pour ce qu'on appelle la transmission?
Elle est essentielle.
Elle se manifeste comment pour toi?
Elle est vraiment essentielle. Essentielle. S'il y avait bien une mission, ça serait la transmission. Elle se manifeste dès que l'occasion s'en présente. Alors c'est au travers de commissions type mémoire parce que j'ai monté apporter un petit peu de culture des uns et des autres, soit aux jeunes pousses, soit parfois à des gens un peu moins jeunes qui pensent savoir et qui savent pas. Mais c'est au travers des commissions, au travers même du conseil, au travers de ta vie, hein, et des rencontres comme celles que nous avons, la transmission, c'est essentiel. Mais sinon, attends, on est passé sur Terre, pourquoi?
Ok. Est-ce que, en deux mots, tu pourrais faire un état des lieux, puisque tu as traversé quand même, notamment à la SACEM, donc dans le nerf de la guerre, le métier. Est-ce que c'est quoi l'état des lieux pour toi aujourd'hui, de la condition des créateurs?
Alors, il y a les enjeux politiques ou géopolitiques qui parfois nous dépassent. Je continue à croire qu'on ne se passera pas des créateurs. Mais il faudra qu'ils soient très vigilants à ne pas se laisser manger tout cru.
C'est ça. Et d'où l'importance du collectif, comme tu disais tout à l'heure.
C'est clé. La vigilance des créateurs, la vigilance des éditeurs, elle est importante. Je parle des éditeurs dans ce que leur rôle a d'essentiel pour l'accompagnement des créateurs. C'est très important. Et moi, j'ai toujours prêché pour la réunion des forces plutôt que de se livrer du corporatisme. Une chose que je redoute un peu, c'est de plus en plus une forme de corporatisme. Chacun ayant la tentation de tirer pour son camp, c'est ridicule. C'est ridicule.
Oui.
Comme dit l'adage, il faut être deux pour danser le tango, même s'il faut être au bon trois, c'est bien excessif, mais bon. Et j'ai un petit peu peur de ces dérives-là. Toujours l'appétit de... Tu sais, il y a une BD que je trouve absolument exemplaire. C'est No Good. C'est extraordinaire.
Oui, j'ai vu.
Le calife à la place du calife. Ouais. Et il y a Haroun El-Poussa, qui est un être débonnaire. Il s'en fout. Et des deux, un jour, je parlais avec un copain qui exerce dans la bande dessinée. Il me dit, ah, bon, il est ignoble, c'est un coach. Non, non, le plus pourri de tous, c'est Aaron El Poussin. Mais bon, non. Je dis, mais si, il laisse faire. Ah, ça, c'est pire. C'est pire. Laissez faire. L'autre, au moins, ça y est, c'est pour donner coffrage. Il veut être calife. Mm. Il va tout faire, mais c'est écrit dessus, tu vois. Il n'a pas trop pris sur la marchandise. Mais l'autre, c'est une grosse masse gélatineuse. Je laisse faire. Je crois que moralement et intellectuellement, on n'a pas le droit de laisser faire.
Bah, c'est le problème dans tous les contextes où il y a des dérives, que ce soit le harcèlement, c'est la, voilà, la complicité passive, finalement. Oui, c'est ça.
C'est que tu n'as pas toujours la force, tu n'as pas toujours le courage, tu n'as pas toujours l'opportunité de t'opposer, mais... Aussi souvent que tu le peux, si franchement ça heurte tes convictions, ne laisse pas faire.
Et puis c'est vrai que c'est dans la transmission, pour le coup, que ça passe, l'éducation et la transmission, d'expliquer que intervenir, c'est pas forcément s'opposer. Intervenir, c'est agir. Donc ça peut être par d'autres moyens qui sont pas forcément frontaux, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas la ressource de s'exposer. Et il y en a, s'ils le faisaient, ils le feraient mal. Ça se retournerait contre eux, ce serait pas du tout constructif.
Et puis, tu sais qu'il y a quand même un sujet important. Il y a un apprentissage de ça.
Ouais. Oui, complètement.
Je pour mon cas, j'ai été beaucoup plus active et certainement plus... constructive au sein du conseil, en ayant un tout petit peu de patine, en ayant absorbé ce qui était de la technique pure, et en disant, oui, mais alors là, attends, si je suis pas d'accord, maintenant, il faut le dire.
Ouais.
Ou si je suis d'accord, ou si, au contraire. Et ça s'appelle l'expérience aussi.
Ouais.
Je crois pas à la parole du vieux con qui enseigne au jeune con, parce que de toute façon, quand t'es con, c'est pas une question de millésime. Mais je pense que il y a une certaine façon, sans être, dans le discours académique, de transmettre un petit peu en douceur des choses. C'est important, et surtout je dirais que c'est de la transmission et de l'accompagnement. Mais c'est pas simple.
Non, c'est pas simple du tout.
On rate des occasions. Moi, il y a des moments où je me serais mis des coups de pied aux fesses. C'était un peu compliqué techniquement. Mais pourquoi t'as pas réagi à ça? Et ce que tu disais, c'est une forme de poison. Hein.
Oui, exactement. Je sens que les fois où je suis passée à côté pour X raisons, j'étais pas en phase, j'étais pas à l'écoute, j'avais peur.
Mais bien
simplement,
sûr.
Simplement, pas forcément pour moi, mais des ricochets.
Non,
des
mais
fois.
C'est recevable.
Et je me suis dit. T'es con, ma pauvre fille, parce qu'au final, c'est toi que ça abîme. Et par ricochet, ça va abîmer des gens aussi. Parce que, en fait, il y a la transmission, mais il y a l'exemple. La meilleure manière de transmettre, c'est d'être ce qu'on défend, c'est de le montrer.
Ah ben, il y a aussi quelque chose que tu apprends, et ça n'est pas de la compromission, mais c'est tout de même, tu apprends la stratégie. Et c'est pas de la compromission. Tu sais aussi, je crois que c'est Rommel qui avait dit à propos de la guerre, je déclare pas une guerre si je n'ai pas au moins une chance de la gagner.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gonfle et que tu aimerais que ça cesse? Quelque chose de récurrent dans le métier où, je dis dans le métier, après ça peut être plus large, mais où tu te dis ça suffit, il y en a ras-le-bol, j'aimerais vraiment que ça cesse. Quoi.
C'est là... L'espèce d'incohérence entre des instances qui se veulent les apôtres de la francophonie et l'usage excessif, ridicule et parfois mal maîtrisé des anglicismes. Ça, c'est quelque chose qui me gonfle au point de... Alors ça, vraiment, ça peut me gonfler beaucoup.
Ok, ton rapport à la notoriété?
Mais c'est quoi la notoriété?
Ben justement, tu vas me dire ce que c'est pour toi. Ce que c'est pour toi et ton rapport à ça.
La notoriété, c'est pour les autres. S'ils en sont contents, tant mieux. Honnêtement, moi, ça n'a jamais été un moteur.
C'est pas... Et puis, c'est une question que tu étudies ou c'est pas quelque chose qui fait partie de tes réflexions? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi, la notoriété? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a obsédé? Enfin, pas obsédé, mais...
Oh non, pas du tout. Non, peut-être que s'il y avait, non pas une obsession, mais une préoccupation, c'est d'être bien dans ma peau et en harmonie avec ce que je pense. Mais alors, que ça se traduit sous forme de ci ou de ça, m'a demandé plusieurs fois si je voulais prétendre pour la Légion d'honneur, par exemple.
Ouais.
Je lui ai dit, à quel titre? Mais c'est pas de la fausse modestie, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Non, sinon ça a des côtés, de temps en temps, utiles.
D'accord, oui, ça ouvre des portes.
Ça ouvre des portes, ça te permet de faire passer des choses.
Oui.
Ça te permet de faire passer des convictions. Mais la notoriété, c'est un boomerang. Hein. Ça te revient vite sur le coin de la carafe. Il y a des gens que... Alors là, il peut m'arriver d'être verbe d'envie. C'est par exemple les écrivains, ça, qui ont un rayonnement parfois même planétaire et dont on ne connaît pas la gueule. Mm. Donc ils peuvent être partout. Ils peuvent aller au supermarché. Ils peuvent aller promener tout.
Ça, c'est un de mes grands fantasmes.
Ah ben c'est mon fantasme absolu. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Ils ont en général des maisons sublimes.
Mm. Et personne ne sait leur tronche.
On
c'est
les connaît
merveilleux.
Pas.
Merveilleux.
C'est extraordinaire.
Ouais, complètement. Est-ce que tu as réussi à conserver la qualité dans la quantité de choses que tu as élaborées, proposées? C'est-à-dire que ou est-ce que des fois tu as dû faire le deuil?
Oh ben non, il y a forcément des choses qui tombent. Il y a forcément des choses qui tombent.
Et est-ce que tu as accepté aussi, par exemple, de faire des choses parce qu'il fallait les faire, t'en avais besoin, et que tu, au niveau de la qualité, c'est pour toi, c'était pas...
Ah bah bien sûr, bah oui, oui, bien sûr.
Et ça t'a pas posé de problème?
Bon, parfois, tu râles, tu fais... Non, je peux pas, mais bon, si ça devient pesant, si ça doit te polluer l'esprit, il faut arrêter, mais bon, bien sûr, attends, la vie n'est pas seulement un peu de oui-oui, hein. Il y a des choses qu'il faut faire parce que tu as le poids de soit de la bien-pensance, soit et puis tu sais, quand j'ai débuté, tu dis, j'ai eu la chance d'avoir des boss qui étaient formidables. On m'a donné 2-3 clés. La première, c'était dans la vie professionnelle, en tout cas, mais même dans la vie, on se soumet ou on se démet. Et ça m'est resté dans mon petit crâne, là. Voilà. Et un jour, j'ai dit, voilà. T'as le choix, tu te soumets ou tu te démets.
Est-ce que tu ressens maintenant, ou tu l'as déjà ressenti, une usure?
Bon, incontestablement. Il y a un moment, tu es un peu plus fatigué. Mais dès que se présente une idée agitée, ça repart.
Donc, tu n'as pas de perte de désir. Ton usure, elle se traduit physiquement.
Non. Mais... Sinon, c'est la mort.
Oui.
C'est la mort. Et d'ailleurs, si ça devait se présenter, je crois que j'irais m'enterrer, je ne sais pas où. Enfin, non, non. Non, non, c'est pas bien, ça. C'est stérile. Il faut semer sa petite graine tous les jours.
Est-ce que tu as une petite anecdote marquante du métier à me raconter?
Bon, dans une carrière aussi longue, et en étant en particulier
plein, bien sûr.
Dans l'univers médiatique, alors, des histoires, tu en as.
Peut-être une qui a été déterminante pour toi, du coup, plus personnelle.
Peut-être, mais elle a tellement été racontée.
Oui, moi, je la connais pas.
Si, c'est l'histoire du disque de Johnny Hallyday cassé à l'antenne. J'avais un patron qui était à la fois mon Michel Maurice, mon mentor. J'étais absolument terrorisé parce que je... Enfin, il me fascinait, quoi. Et il nous enregistrait. Il animait une émission au cours de laquelle il présentait des nouveautés. Et il m'avait demandé d'être la réalisatrice. Ce qui était complètement visionnaire, parce que j'étais le petit grouillot, là. Mais il avait trouvé que j'étais une secrétaire. Peut mieux faire, genre dactylo, tu vois. Mais intéressé par la musique. Donc j'étais là. Et il m'avait dit coco, il parlait comme 15 mots, coco. En studio, c'est vous la patronne. Bon, je lui ai dit, J'ai dit, ce mec est fou, il me terrorise, que ça va bien. Et est arrivé le premier ministre de Johnny Hallyday. Et moi, j'avais complètement craqué. Alors, je trouvais ce mirobolant. J'étais me roulais par terre en l'écoutant. Enfin, bon. Et lui, il a fait le malin. Il a dit, voilà, Nice, parce qu'il avait senti mon enthousiasme. Et beaucoup aussi pour me faire un peu un pied de nez, parce qu'on avait des rapports faits de malice à l'antenne. Il a dit, voilà, un disque. Vous allez l'entendre pour la première, un disque et un artiste que vous allez entendre pour la première et dernière fois. Il a passé le disque et il l'a cassé à l'antenne.
D'accord.
Et là, je lui ai passé une engueulade. Je dis, mais vous avez couvert de ridicule, ça vous suivra toute votre vie, toute votre carrière. Enfin, et lui se marrait comme un fou. Il avait réussi à pousser son poussin hors de truc. Et puis, Johnny Hallyday a fait la carrière qu'on sait.
Ben ouais. Ça n'était donc vraiment pas la dernière fois.
Ah, voilà, voilà. Et ça,
mais, mais tu vois, elle est très racontée, mais c'est une belle anecdote, parce que ça en dit long, en fait. Justement, sur l'entourage, la périphérie des artistes.
Ah oui,
des,
mais c'était bien. Voilà.
Tu vois, comment aussi ça, ce genre d'action, dans un autre contexte, peut briser quelqu'un de fragile et de pas confiant, comme le sont beaucoup d'artistes.
Ah, moi, ça
m'avait
mis hors de moi. Et Dieu sait s'il me faisait peur. J'avais du respect, de la crainte. Mais alors là, je suis sorti de mes gonds. Il rigolait, ce con.
Est-ce qu'il y a une personne, une seule, pour toi, qui a été déterminante?
Oh, bah, Lucien Maurice, c'est clair. Bah, y avait Lucien et Pierre Delanoë. Hein. Mais vraiment, vraiment, c'est Lucien Maurice.
Une résolution.
Aujourd'hui, on se plaint. Résolution, beaucoup de
choses. Ouais, imagine, on est le 1er janvier, là, tu te dis, allez, ça, c'est ma résolution d'aujourd'hui.
Non, j'ai pas de résolution parce que je sais que je les tiendrai pas. Non, ce que j'aimerais, c'est continuer à avoir cet esprit curieux.
Alors, ça, c'est plus un vœu. Parce que ouais. J'allais te demander un vœu, du coup, quelque chose tu souhaites
rester
ou que tu te souhaites.
Rester comme ça, avec l'esprit curieux et puis l'envie de transmission. D'accord. Et surtout les opportunités de transmettre, bien sûr.
Mais ça vient avec l'envie, ça, normalement, si la vie est bien faite.
Oui, globalement, si la vie est bien faite.
Et un conseil que tu... Alors, oui, je sais, tu vas peut-être me dire, oui, c'est pompeux comme mot, tout ça, mais c'est important, des fois, quelque chose qui te tient à cœur, justement, de le transmettre en une chose. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un créateur qui t'écoute?
C'est un ensemble de règles, si tu veux. Y a quelque chose qui m'a toujours frappé, parce que... Ça, c'est important, et ça, c'est la phrase qui dit, pour bien savoir où on va, il faut se souvenir d'où on vient. Et ça, c'est une règle de vie. Et ça n'a pas forcément toujours à voir avec tes origines, même, mais moi, si tu veux, ça serait un petit peu, pour bien aimer le futur, il faut respecter le passé. Donc, ça veut dire respecter tes anciens. Mais croire résolument au petit nouveau. C'est un peu ça. C'est un peu ça.
D'accord.
Mais si tu veux leur apporter, ben, c'est comme tout. Hein. Tu sais, si tu veux avoir à donner, il faut avoir des réserves.
C'est ça.
Il faut, c'est un peu ça.
Recevoir. Ok.
La louloute.
Eh bien, ma louloute chérie, je te remercie. Il est 16h26. Ça a pris du temps, mais en même temps, j'ai fait durer aussi parce que ça me fait plaisir d'être avec toi.
Ah, oh, mais ça, on peut se voir aussi, sans forcément.
Voilà, je suis touchée de ton accueil et de ta confiance. Écoute. Vraiment, je te remercie.
Il est 16h26, heure de curiosité et heure pour nous de sortir de la peau de la curieuse Arlette Tabar. Merci d'avoir fait le voyage et à très bientôt pour le prochain.